Ici l'ombre.
Le grand entretien. Par Laurence Bolomé.
Bonjour à toutes et à tous sous ce chapiteau. Nous nous retrouvons pour le deuxième grand entretien de ce week-end de Concertina. Bienvenue également aux auditrices et auditeurs d'Ici l'ombre, la radio éphémère qui accompagne Concertina, mais aussi aux différentes radios locales et associatives qui nous suivent en direct. Et bienvenue évidemment également à notre invité du jour, Abdel. Bonjour. Merci de nous avoir reçus. Abdel, c'est un pseudo, mais vous acceptez de témoigner ici, à visage découvert. Merci à vous de venir nous dire tout ce que vous avez envie de dire. J'espère qu'on arrivera à faire le tour. J'ai envie de dire pour commencer que vous êtes totalement libre depuis mars de cette année, débarrassé de votre bracelet électronique. Quelle est la première escapade que vous avez faite ce jour-là ?
La première ?
La première escapade.
La première escapade, alors je suis parti en forêt avec mes filles.
En forêt ?
Oui.
Avec vous, nous allons parler de votre vision de la sanction, de la prison et de ce qu'il faudrait améliorer en prison. Et là, vous avez de quoi dire. De votre reconversion professionnelle également. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travailliez dans le domaine social avant de prendre un virage délictuel. Résultat, une sanction de 5 ans, dont une avec sursis. Je vous rassure, il est sorti après 21 mois. Vous dites que la sanction a été salutaire. Comment ça s'est passé, votre jugement, finalement ?
Alors moi, je n'ai pas attendu le jugement de la justice pour me juger moi-même. Donc j'ai déclaré ma culpabilité très rapidement parce que j'avais pleinement conscience des actes que j'ai commis. Je le regrette profondément, mais ça fait partie de ma vie, de mon identité. Et donc avant même la déclaration de culpabilité de la justice, je me suis déclaré coupable. Donc ça a été très, très facile pour moi en fait, d'accepter ce qui m'arrivait.
Le fait de s'auto-juger quelque part, est-ce que ça vous a aidé aussi à suivre la sanction ?
Alors oui, ça m'a aidé parce que le problème en prison, c'est l'acceptation. L'acceptation de sa situation, il y a beaucoup de détenus qui, soit il y a des innocents, soit il y a des innocents déclarés, il doit en exister. Et il y a aussi les détenus qui sont dans la défiance d'un système qui le ressentent comme injuste et oppressant. Moi, la sanction, elle a été salutaire, voire salvatrice. Ça m'a permis de sortir d'un parcours.
En même temps, la sanction, oui. La prison un peu moins, telle qu'elle est.
Alors oui, pas la prison un peu moins, la prison telle qu'elle est, oui, effectivement. La sanction des actes fautifs, incontestablement, oui. Oui, c'est ce qui me protège, c'est ce qui protège ma famille, c'est ce qui protège mon voisin, mes proches, la société. Mais les conditions de détention, les moyens alloués à la réinsertion, à la réelle réinsertion, pas la réinsertion, l'expression creuse qui est tenue dans beaucoup de bouches, mais en réalité qui est une expression creuse. Oui, mais les conditions de détention questionnent énormément.
En même temps, vous avez quand même pu faire des études de droit en prison. Donc est-ce que vous avez bénéficié d'un aménagement ou est-ce que vous vous êtes vraiment battu pour avoir ce droit de justement préparer tout seul finalement votre réinsertion ?
Alors en fait, en prison, il y a plusieurs façons de vivre son temps de détention. Soit on baisse les bras, soit on se met au cachet, les cachetons, les neuroleptiques, les benzodiazépines, etc. Soit on se met au sport, soit on trouve des bouées de sauvetage. Moi, j'ai trouvé une bouée de sauvetage, c'est la reprise d'études. J'ai entamé une capacité en droit. J'ai entamé une capacité en droit parce que j'ai beaucoup lu. J'ai lu les rapports du contrôleur général des lieux de privation et de liberté. J'ai lu les publications de l'OIP. J'ai aussi regardé les interventions de la Ligue des droits de l'homme. Et ce qui m'a donné envie de faire du droit, c'est aussi de voir des souris en cellule, des cafards en cellule, des infiltrations d'eau à la maison d'arrêt, la fournaise en été, l'hiver glacial en hiver. Tout ça, ça a participé au fait de me conforter. J'aurais pu baisser les bras, mais en fait, ça a été un carburant.
Alors, vous auriez pu baisser les bras. Vous avez en même temps fait une dépression en prison. Donc, ça veut dire que vous avez dû aller rechercher des forces encore plus loin en vous ?
Oui, j'ai déprimé fortement parce que c'est une privation de liberté, parce que la peine ne pèse pas que sur soi, elle pèse aussi sur sa famille, sur ses proches. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai perdu ma liberté. Quand j'ai perdu ma liberté, quand j'ai vu mes proches en pleurs, notamment au parloir. Donc, mais oui, j'ai vécu une dépression, une déprime, mais pour autant, j'ai gardé l'espoir tout le temps de continuer, de m'accrocher à une bouée de sauvetage, en l'occurrence une reprise d'études, et parce que beaucoup de détenus sont assignés à l'immobilisme, à l'inertie, par manque de moyens.
Par manque de moyens du système, en fait.
Par manque de moyens du système. Et en fait, moi, j'ai très rapidement compris que le système carcéral, le système pénitentiaire, judiciaire, ne m'aidera pas. Et qu'il m'appartenait à moi de prendre les rênes de ma propre existence et de saisir aussi toutes les mains tendues des individualités qu'on rencontre en prison. Les surveillants pénitentiaires, les CPIP, la juge d'application des peines qui m'a accordé la demande d'aménagement de peine. Mais le système en lui-même n'aide pas. Vraiment, il assigne à l'inertie, à l'immobilisme.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à voir finalement les personnes qui allaient pouvoir être des aides? Est-ce que c'est des mots qu'ils ont dit? Est-ce que c'est des regards? Est-ce que simplement vous avez une acuité sensorielle pour comprendre qui allait vous aider?
C'est des mots, c'est des attitudes. Vous savez, un surveillant pénitentiaire, quand il vous dit « monsieur », pour la première fois, vous regardez derrière vous, vous regardez à qui il parle, vous dites qui est monsieur. Parce qu'on vous appelle par vos noms de famille, on vous appelle par « tu ». Quand on a un surveillant pénitentiaire qui s'intéresse à votre journée, à votre matinée, comment vous avez dormi, qui vous encourage aussi à garder de l'espoir, la psychologue aussi, la psychologue de l'unité sanitaire. Donc toutes ces attitudes, tous ces propos, moi je les ai réunis, je les ai mis dans un sac, mon sac de motivation, et je l'ai pris avec moi. Et quand ça n'allait pas, je pensais à ça aussi.
Tout à l'heure, vous disiez que parmi les motivations à vous en sortir, il y avait aussi les côtés négatifs, les râles, l'humidité. Comment est-ce qu'on arrive mentalement à s'appuyer tant sur le positif que sur le négatif pour en faire finalement un même résultat, c'est-à-dire une motivation vers l'avenir, tournée vers l'avenir?
Alors moi, dans un établissement pénitentiaire où j'étais incarcéré, il y avait des souris en cellule, il y avait des souris et des cafards. Et je me suis dit, c'est soit je nourris la haine, c'est la haine qui prend le dessus, c'est la haine du système, j'entre dans une colère noire, je casse tout en cellule, ou soit j'utilise ça de manière intelligente. Et je me dis que le système ne m'aidera pas, le système est même là, peut-être, parfois, pour vous briser, ou en tout cas, s'il n'en a pas la volonté, dans les faits, c'est la réalité, il peut vous briser. Et je me suis dit, je vais utiliser ça pour essayer d'avancer.
Vous disiez que la réinsertion, c'est une phrase creuse, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas assez de places de travail à l'intérieur de la prison où vous étiez? Oui. On ne peut pas parler de l'ensemble des prisons françaises, mais...
Alors, il y a très peu de places de travail, il y a beaucoup de demandes. Les formations qualifiantes, il y a très peu de formations qualifiantes. L'accès aux études à distance par l'outil du numérique, on est en 2026, on n'a pas accès dans les prisons françaises à l'enseignement à distance, alors qu'on pourrait le faire, de manière sécurisée, c'est pas possible. Moi, vous savez, mes cours de capacité en droit, ils m'étaient dictés à la cabine téléphonique par mes proches. Mes proches me ramenaient des livres au parloir. Il y avait des livres à la bibliothèque, mais c'était des œuvres archéologiques qui auraient leur place dans un musée, mais pas dans une bibliothèque, pas pour des cours de droit. Donc c'est très compliqué, les moyens matériels. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté de réinsérer les personnes.
Pour parler du téléphone, ça veut dire en plus des frais incommensurables de téléphone.
Alors j'avais plus d'une centaine d'euros de budget téléphonique par mois. Budget téléphonique qui faisait la joie d'un opérateur privé, puisque c'est un opérateur privé qui a le marché des communications téléphoniques légales, parce qu'il y a des communications téléphoniques illégales. Les détenus ont des téléphones, ont des smartphones, et pas tous pour commettre des infractions, tout simplement pour rester en contact avec leur famille à moindre coût, pour voir des films, etc., pour être sur des plateformes de télé. Mais moi, effectivement, j'avais plus d'une centaine d'euros de communication téléphonique que je finançais avec mon maigre salaire, de 200 et quelques euros, et par aussi l'aide de ma famille.
Votre salaire, peut-être dites-nous ce que vous faisiez en prison.
Alors, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire d'étage, donc je distribuais les repas à mes co-détenus, je nettoyais aussi la coursive, je travaillais aussi en tant qu'auxiliaire bibliothécaire et j'ai travaillé aussi dans un atelier d'imprimerie.
Alors on l'a dit, vous avez bénéficié d'une, qu'est-ce qu'on va dire, d'une, comment vous le dites déjà, une libération
anticipée. Ouais, dans le cadre d'un aménagement de peine.
Voilà, réaménagement de peine.
Oui, donc j'ai fait une demande d'aménagement de peine, j'ai demandé à sortir avant l'heure, je suis allé plaider ma cause devant une juge d'application des peines. Pour moi, c'était très important en fait, de me dire que la justice qui m'a condamné, c'est la justice qui va m'aider, qui va me tendre la main, parce qu'il y a une forme aussi de respect, de respect mutuel et surtout un respect de mon côté à l'égard de l'institution judiciaire. Et je suis allé plaider ma cause. Et ce qui m'a posé problème, moi, dans la prison, dans la peine privative de liberté, c'est que j'ai vu beaucoup de détenus attendre les libérations automatiques, ce qu'on appelle les libérations sous contrainte, c'est-à-dire l'exécution de deux tiers de peine, et ils sortent de manière quasi automatique, sans voir un visage de la justice. par une simple ordonnance qui vient toquer à votre porte le matin et on vous dit demain vous êtes dehors. Et la libération sous contrainte, à mes yeux, qui est prévue par la loi, c'est un dispositif en fait de turnover carcéral. Qui n'attend aucune évolution de la part du condamné, alors que l'aménagement de peine, il faut plaider sa cause, il faut accomplir des efforts, il faut venir avec un projet de sortie cohérent, crédible. Et moi, je suis allé plaider ma cause, et la justice d'application des peines m'a fait confiance.
C'est une manière de demander le respect aussi, ou de redevenir un humain qui peut parler de lui-même, ce besoin de plaider, justement.
Alors, en France, on a un gros problème, c'est que la justice d'application des peines statue sur de deux façons. Soit elle statue sur dossier, et elle ne vous entend pas, et elle ne vous regarde pas, elle ne vous voit pas dans les yeux. C'est une justice qui n'est pas incarnée par des visages humains, sur dossier. Soit il y a la justice d'application des peines qui statue dans le cadre d'une demande d'aménagement de peine, donc il y a un débat contradictoire qui s'installe. Il y a aussi le parquet qui fait part de son avis, mais au moins, on est face à une justice humaine. De la comparution. Vous savez, le président du tribunal judiciaire de Paris, il a dit que l'acte de juger est une brûlure pour le juge. C'est-à-dire que c'est un effort sur lui-même. Mais l'absence de comparution devrait être un enfer pour le juge. Le fait de ne pas voir le justiciable, de ne pas voir le condamné devant lui et de statuer uniquement sur dossier, ça devrait être un enfer.
Il statue sur des petites croix dans des cases, c'est ça ?
Alors, oui, tout à fait. Il rend des décisions sur ordonnance, des formulaires standardisés avec des croix. Avec des croix, avec des motivations qui parfois sont sommaires, laconiques, expéditives. On parle de pédagogie de l'audience, de pédagogie de la justice, mais quelle pédagogie il y a à prendre connaissance d'une décision sur un formulaire standardisé avec des croix ?
Le fait de plaider un projet, c'est justement formateur, parce que ça vous oblige à penser l'avenir, à réfléchir à ce que vous pourriez faire. Donc vous avez l'impression qu'au-delà d'être respecté comme humain face à la justice, comme vous le disiez, c'est aussi formateur.
Alors c'est important, parce qu'un projet, ça se construit, il faut que ça soit cohérent, et ça permet aussi d'accomplir des efforts. En l'occurrence, moi, c'était mes études, c'était difficile, c'est parce que le bruit en détention, c'est un tueur, c'est un tortionnaire. L'absence de livres adaptés, c'est très difficile. Le fait de ne pas pouvoir accéder aux plateformes pédagogiques de l'université, c'était aussi très compliqué. Mais oui, c'était très important pour moi.
Vous pensez que le fait que vous ayez travaillé avant la prison, que vous aviez quand même une vie dans la vie active, on va dire, parce qu'on a souvent ici des détenus qui sont rentrés en prison très jeunes. Ça vous a aidé justement à construire votre projet et peut-être à plaider votre cause avec plus d'affirmation ?
Le fait d'avoir travaillé avant la prison ? Non, je pense pas. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Je pense que c'est la perte de liberté. Le fait d'avoir perdu quelque chose qui a une saveur particulière, la liberté. Le fait d'avoir vu des proches à moi en pleurs au parloir. Donc c'est ça qui m'a aidé, à me battre. Parce que la peine ne pèse pas que sur soi. Elle pèse sur sa famille, elle pèse sur ses proches. Et ça m'a ravagé à un moment, mais ça m'a aussi aidé. Mais l'exercice d'un travail avant la prison ne m'a pas forcément aidé. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai reconnu ma culpabilité très tôt, donc je n'avais pas ce souci d'acceptation. Et ça m'a aidé aussi.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ce souci d'acceptation. Vous avez parlé de vos proches qui pleuraient en prison. Oui. Vous m'avez parlé d'une anecdote avec votre maman. J'aimerais bien que vous en parliez parce que c'est très évocateur, finalement.
Oui. Alors, ma mère, la première fois qu'elle est venue me voir en prison, au parloir, elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit que j'étais victime d'une injustice. Donc, elle pensait que son fils était victime d'une injustice, d'un complot. Et je l'ai tout de suite rassurée. Je lui ai dit, maman, ton fils n'est pas victime d'une injustice. Sa place est en prison. Et là, elle a respiré, mais une respiration de soulagement. Une respiration de soulagement, et elle m'a dit, d'accord, dans ce cas-là, ça va être une épreuve, on va la traverser ensemble, et ça va passer. Voilà. Mais elle a été très, très soulagée d'entendre ça de ma part, que ma place était, oui, en prison, mais il n'en demeure pas moins que les conditions de détention étaient scandaleuses, parfois.
Mais ça aurait pu aussi lui faire plus peur, c'est-à-dire de dire, tant que vous êtes... victime d'une injustice, elle pouvait se dire que son fils était parfait, alors que tout d'un coup, vous lui disiez, finalement, je ne suis pas si parfait que ça.
Oui, mais je pense que la sincérité est très, très importante. Si on veut pouvoir se regarder face à un miroir, notamment en prison, dans une cellule de 9 mètres carrés, et le miroir, il est en face, bien souvent, je pense qu'il vaut mieux être sincère avec ses proches et avec soi-même.
Et pour votre maman était ce jour-là votre miroir.
Oui.
Vous avez parlé d'ailleurs de l'importance de la famille, hein, dans le soutien qu'elle a pu vous apporter.
Primordial, incontestablement primordial. Le soutien familial, pour moi, a été primordial parce que ça donne de l'espoir. Parce que ça donne de l'espoir. Et quand je vois toutes ces polémiques stériles sur les permissions de sortir, sur les permissions de sortir, alors que les permissions de sortir sont des outils aussi d'évaluation pour voir si le condamné, effectivement, il respecte le cadre qui a été donné, s'il revient, et le maintien des liens familiaux est primordial. Il faut savoir qu'en prison, il y a des personnes qui n'ont pas de famille, notamment ce qu'on appelle les indigents. Ils n'ont pas de famille, personne ne les attend à l'extérieur. Moi, j'avais cette chance d'avoir une famille, d'avoir des proches, et ça a été super important, un repère.
Pour votre sortie, mais aussi pendant toute la période des 21 mois de prison.
Pendant les 21 mois d'incarcération, pour la période de détention à domicile, et encore maintenant.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la sanction était bénéfique pour vous, et vous avez complètement admis ce que vous avez fait. La prison, pourquoi pas comme solution ? Néanmoins, ce n'est pas la seule solution. Qu'est-ce que vous voyez comme autre solution que la prison pour des gens qui auraient fait des infractions finalement pas trop abominables, évidemment ?
Alors, vous savez, dans mes études de droit, j'ai appris que l'emprisonnement devait être l'exception, devait être l'ultime recours. Mais en fait, dans les faits, l'emprisonnement devient la peine de référence. La peine privative de liberté, la prison, on la distribue aujourd'hui dans les tribunaux. On la distribue notamment aux personnes les plus défavorisées, qui n'ont pas de garantie de représentation, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de situation. Mais la peine de référence ne devrait pas être la prison. Moi, je pense profondément qu'il y a des mesures alternatives à l'incarcération qui sont plus utiles aux condamnés, mais aussi à la société. Notamment le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, parce que la prison, il ne faut pas se leurrer. Elle désinsère. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leur logement dans le cadre de peines de quelques mois de prison. Ce ne pas des personnes qui ont été condamnées pour des crimes infâmes, et c'est des gens qu'on désinsère.
C'est-à-dire qu'ils rentrent comme petits délinquants et ils ressortent comme SDF ?
Alors certains sont sortis comme SDF, oui. Moi, j'en ai vu qui sont sortis avec un ticket de bus, un baluchon, et le conseil du SPIP appelait le 115 à la sortie, mais dès le matin. Parce que sinon, il risque de ne pas y avoir de chambre l'après-midi. De toute façon, au 115, il n'y a pas de place que ce soit le matin ou l'après-midi.
Donc, c'est un lieu d'accueil pour les personnes SDF, c'est ça ?
Oui, le 115. Oui, c'est le numéro d'urgence pour avoir éventuellement une place d'hébergement pour la nuit.
Alors, vous dites que la prison, ce n'est pas la seule solution, qu'il y a des alternatives, le travail d'intérêt général, il y en a d'autres parce que...
Alors, il y a le travail d'intérêt général, il y a le bracelet électronique, il y a la semi-liberté. Donc, c'est la prison, on sort la journée, on rentre le soir pour dormir. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres mesures. Il y a la libération conditionnelle. La libération conditionnelle, un ancien président de la République en a bénéficié, Nicolas Sarkozy, pour le citer. Une mesure prévue par la loi selon le parquet. Mais une mesure qui est une mesure de faveur pour les milliers de prisonniers qui sont en France. Mais pour Nicolas Sarkozy, c'est une mesure prévue par la loi, parce que M. Sarkozy est injusticiable comme un autre, d'après le parquet.
Mais vous qui faites du droit, justement, vous savez que c'est une mesure qui est en effet accessible.
Alors ce n'est pas une mesure de faveur, une mesure d'aménagement de peine ne doit pas être une mesure de faveur. Ce n'est pas un cadeau que la justice accorde ou pas. Une mesure d'aménagement de peine, c'est une mesure qu'on devrait tous appeler de nos voeux. C'est une mesure qui prouve qu'il y a eu une évolution dans la situation du détenu et qui lui permet d'avoir un cadre d'exécution de la peine moins contraignant, moins encadré. On devrait tous appeler de notre vœu à l'octroi de mesures d'aménagement de peine. Ça veut dire que la peine a porté ses fruits, que les murs ont porté leurs fruits. Mais aujourd'hui, les mesures d'aménagement de peine deviennent l'exception. Et la peine privative de liberté, la prison devient la peine de référence. Et ça, c'est problématique.
Évidemment que ce serait une solution à la surpopulation des prisons, puisqu'on sait que dans de nombreux pays, il y a une nette surpopulation. Ce serait un moyen, finalement, d'améliorer les conditions ?
Alors, je pense que l'un des leviers contre la surpopulation carcérale, c'est l'aménagement de peine. Mais comme je vous ai expliqué, pour bénéficier d'un aménagement de peine, il faut faire preuve d'effort de réinsertion et avoir un projet de sortie. Mais comment faire preuve d'effort de réinsertion quand il n'y a pas d'addictologue en prison, quand il n'y a pas de prison, quand il n'y a pas de psychiatre, quand le délai pour voir un psychologue, c'est de 6 mois, quand on n'a pas de permission de sortir pour rencontrer un éventuel employeur, quand l'accès aux études est compliqué, comment peut-on faire la preuve d'effort de réinsertion ? C'est kafkaïen.
Ça vous est arrivé, hein ?
Oui,
vous avez demandé de pouvoir rencontrer un employeur, puisqu'on parle de réinsertion.
Oui. Et on vous a Alors dit... moi, j'ai demandé une permission à employeur. Ça m'a été refusé par la justice de l'application des peines, avec un avis défavorable du parquet, alors que j'étais éligible à un projet d'aménagement de peine. Mais en fait, on est dans le domaine de l'absurde. La société, la loi vous demande de changer. La loi vous demande de venir avec un projet incluant notamment un travail. Elle vous empêche de l'avoir. En fait, on nourrit la surpopulation. Et en plus, l'avis du parquet n'est même pas développé. On ne sait même pas pourquoi le représentant des intérêts légitimes de la société se dit défavorable. c'est une justice qui est expéditive. On a vraiment une justice de l'application des peines qui est indigente, qui est clochardisée. Et c'est la justice d'abattage. Et cette justice-là est dangereuse. Après, ils ont très peu de moyens. Ils font avec les moyens qu'ils ont, aussi bien les SPIP que les JAP, les juges d'application des peines. Mais l'acte de juger devrait être une brûlure, apparemment.
C'est un peu un cercle vicieux, parce que plus il y a de monde en prison, moins la justice peut intégrer les phrases creuses pour en faire des phrases pleines, comme la réinsertion. Donc c'est à prendre au début. Avez-vous l'impression que, parce qu'ici on parle de prison, tout le monde est intéressé par les prisons, mais dans la société, j'ai le sentiment que des fois, si on dit on prend une décision pour améliorer les prisons, beaucoup de gens vont dire oui, mais alors moi je suis au chômage, on aide un ex-détenu qui a fait un truc délictuel.
Si demain un homme politique dit qu'il faut s'occuper des prisons, il faut améliorer les conditions de détention, il est assuré de ne pas être élu. Donc il faut du courage politique. Il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on se regarde face à un miroir, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut que la peine produise. Qu'est-ce qu'on veut que la peine produise? Des SDF, des personnes qui sortent sous cacheton, qui sortent piquées aux neuroleptiques, des gens qui ont la haine du système, des gens qui sont sur le tremplin de la récidive. Qu'est-ce qu'on veut que la peine produise? Et il faut se dire que le prisonnier d'aujourd'hui, c'est peut-être votre voisin demain, votre collègue de travail, un membre de votre famille, voire peut-être vous-même.
Même
ce que je vous souhaite pas, exactement. Mais en fait, il faut un courage politique, courage qu'on n'a pas. On avait un grand humaniste, un grand ministre de la justice, Robert Badinter, qui avait une certaine vision de la privation des libertés et du traitement des personnes privées de liberté. Aujourd'hui, il nous manque un humaniste. Aujourd'hui, il nous manque des politiques qui ont des valeurs humanistes. Aujourd'hui, on a des politiques qui s'inclinent sur la tombe de Robert Badinter le lundi et qui mardi piétinent son héritage.
Vous parlez de Badinter, évidemment, je suis obligée de faire la relance, mais son discours sur la peine de mort est une des choses qui vous a motivé à faire du droit.
M'a motivé à faire du droit et qui m'a motivé aussi à garder l'espoir. Parce que c'est un discours qui indique qu'il ne faut pas renoncer à l'être humain. Il ne faut pas renoncer à la vie d'un être humain, qu'il faut croire au changement, qu'il faut croire en l'avenir. Et quand j'ai écouté ce discours, la première fois que je l'ai écouté, c'était en prison. Je me suis dit, j'ai aussi pris ce discours et je l'ai mis dans mon sac motivationnel.
Ça faisait partie des nombreuses choses qui étaient dans votre sac.
Oui.
Finalement, quand on prend cette image du sac, on a l'impression toujours que c'est lourd, mais pour vous, ça vous a allégé en fait.
C'était
plus
un sac
qui était plein, plus il était
c'est
léger.
C'est un sac, plus il était plein, plus il m'allégeait, plus il m'aidait.
Donc au fond, un politicien, soit il doit avoir du courage, soit il doit rappeler à la société que chaque personne en prison est une potentielle personne qui va sortir et que donc il faut soigner la société en soignant la prison. Est-ce que ça, ce serait l'argument?
Mais en fait, une prison qui ne soigne pas, qui n'éduque pas, qui ne forme pas, ne sert strictement à rien. Elle contribue aux maux de la société, les maux MAUX. Et ça, vraiment, il faut qu'on en prenne conscience. Et il faut des hommes politiques, notamment courageux, qui rappellent ceci à la société. Mais aujourd'hui, on est loin de ça. On a connu le siècle des Lumières. Aujourd'hui, c'est les ampoules grillées qu'on a.
C'est le siècle de l'ombre. Ici l'ombre, la radio qui accompagne Concertina. On va parler un peu de votre présent et de votre avenir, parce que vous avez cette volonté de témoigner, de dénoncer, de dire les choses. Vous êtes en train de faire des études de droit. C'est-à-dire que vous avez commencé en prison, vous le continuez.
Oui.
Parlez-nous un peu de votre vie aujourd'hui entre travail...
Alors à ma sortie en aménagement de peine, j'ai débuté les cours du soir de capacité en droit que j'ai obtenu. Et aujourd'hui, je suis en licence à la fac, en première année. Et j'ai aussi participé à des journées portes ouvertes à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai aussi assisté à une conférence à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on avait des grands principes, hein, le principe du contradictoire, le principe du recours effectif, les traitements inhumains et dégradants, qui, en fait, sont malmenés au jour le jour. Et ça me booste aujourd'hui, moi, dans mes études et dans mes projets, parce qu'en fait, j'ai vécu dans ma chair les écarts vertigineux entre les principes et la réalité.
Donc vous faites du droit, mais vous ne vous voyez pas la possibilité de défendre des détenus en tant qu'avocat. Vous ne vous voyez pas avoir une place parmi la junte des avocats.
Alors malheureusement, j'ai le boulet du casier judiciaire. Alors oui, la loi prévoit que le casier judiciaire peut être effacé. Après, je me vois plutôt en tant que juriste dans une association des droits humains.
Où là, vous auriez plus votre place, vous auriez moins l'impression d'être un peu la bête noire de la congrégation ?
Non, pas forcément, parce que après les études d'avocat sont très longues. C'est, il me semble, c'est 5 ans le master, plus après 2 ans. Et j'ai peut-être pas aussi ce temps-là accordé, mais oui, ça aurait pu être une possibilité. Mais après, vous savez, pour intégrer l'ordre des avocats, il faut faire preuve d'une probité depuis sa naissance ou même avant. Donc c'est peut-être compliqué d'être avocat alors que je suis ancien détenu.
Dommage, parce que vous auriez des compétences pour défendre, justement.
Oui, oui. Après, j'ai sollicité un avocat qui plaide notamment à la CEDH, qui est prêt à me prendre en stage dans son cabinet. Donc, il y a des personnes qui ne renoncent pas aussi aux humains, et malgré le parcours jalonné de fautes.
Ouais. J'ai pas dit votre âge au début, parce que je me disais que c'était peut-être pas important, mais maintenant que vous nous racontez que vous faites des études, que vous avez tout ce parcours, c'est peut-être intéressant de dire à quel âge vous reprenez des études.
Alors, j'ai 43 ans.
43
ans. J'ai 43 ans.
Et puis, en même temps que vos études, ça vous... oui.
Merci.
Vous ne les faites pas, c'est ça que l'applaudissement doit vouloir dire.
Ouais. L'huile d'olive. Il faut manger de l'huile d'olive et...
Le régime du Sud.
Voilà, tout à fait.
Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'en même temps que vos études, vous travaillez parce que vous avez certes une bourse, mais qui ne vous permet pas de vivre. Donc, vous devez... assumer quand même votre j'allais dire niveau de vie, mais votre
alors,
petit niveau de vie.
Une association que j'ai connue en prison, qui intervient dans la prévention du VIH et des hépatites, m'a proposé un emploi. J'étais acteur communautaire en détention sur la prévention du VIH et des hépatites, et elle m'a proposé un emploi, donc que je devrais commencer au mois d'août.
Et vous arrivez à aménager études
Alors, l'emploi va commencer au mois d'août et j'espère pouvoir concilier mes études avec mon emploi, parce que mes études, ce n'est pas ce qui remplit le frigo ou qui paye les factures. Mmh.
Si je vous donne une minute pour faire un dernier message, tant aux auditeurs des radios qui nous écoutent qu'aux personnes...
Oui. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut vraiment pas... Je pense qu'il ne faut pas renoncer à l'être humain. Et j'en appelle à ces justices d'application des peines humanistes, à ces magistrats qui, eux aussi, ne renoncent pas à l'être humain. Il faut absolument faire comparaître les gens, y compris en commission d'application des peines. Parce que le fait de voir une personne, de l'entendre, ça peut changer vraiment la donne. Ça peut vraiment changer la donne. Moi, vous savez, il y a une juge qui m'a refusé une permission employeur au motif que ma date de fin de peine était éloignée. Mais c'est la même juge qui m'a accordé ma libération alors que je n'avais pas du tout de travail à l'extérieur. Mais parce que j'avais un projet d'études qui était cohérent. Et il faut vraiment laisser la place à la comparution. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et sortir de cette justice mécanique, expéditive, qui est d'abattage, qui n'est ni bonne pour le condamné, ni pour la société. Merci.
Abdel, merci beaucoup pour votre générosité, pour vos messages, pour votre vision aussi. On aimerait que cette vision aille au-delà du parc de Beaume, mais certainement il ira grâce aux radios qui nous écoutent. Pour le public et pour les auditeuristes, demain, dernier des 3 grands entretiens, nous recevrons une jeune femme, mère de famille, qui est passée par des hospitalisations psychiatriques sous contrainte à plusieurs reprises. Elle nous racontera comment est-ce qu'elle s'est reconstruite, comment est-ce qu'elle a vécu tous ces épisodes. Je voulais encore remercier à la technique Morgan, Quentin, Luca et Djebrine pour nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-heure. Merci beaucoup encore Abel et bravo pour vos messages.
Merci. Merci.
Ici l'Ombre.
Le grand entretien. Par Laurence Bolomé.